Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à vous tous et bienvenue. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Alors aujourd'hui, on va visiter la cité radieuse du Corbusier à Marseille. Ensuite, on va rencontrer un photographe passionné d'araignées. Ça se passe en Haute-Loire. Et puis, on va s'intéresser à un défi lancé à des pâtissiers en Bourgogne.
Il y a des gâteaux tous les jours en ce moment, vous avez remarqué. Il va falloir faire attention à la ligne.
L'invité de l'actualité, c'est un représentant des Britanniques en France.
Le vice-président de British in France, au moment où des expatriés britanniques s'inquiètent sérieusement avec l'issue du Brexit.
Et on commence par l'info de ce jeudi 5 septembre, c'est avec Simon de Faucompré. Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
De nombreux incendies depuis hier en France.
Oui, probablement à cause de la sécheresse qui sévit sur presque tout le pays. Les pompiers sont actuellement mobilisés sur 4 feux, Laetitia Oveline.
Oui, dans les Pyrénées-Orientales déjà, à la frontière espagnole au sud de Perpignan, plus de 200 pompiers sont mobilisés depuis ce matin. Les flammes ont menacé des habitations à Bagnoul-sur-Mer. 4 canadaires sont toujours en rotation, mais l'incendie est maintenant fixé. Dans l'Aude, 150 hectares de pinèdes ont brûlé près de Carcassonne. 250 pompiers restent sur place pour éviter une reprise. Dans le Vaucluse, tous les massifs sont interdits d'accès. Des groupes d'intervention sont actuellement prépositionnés au cas où. Et les flammes prennent place aussi dans des départements moins habitués aux incendies de l'été. En Charente-Maritime, 150 hectares d'une forêt de pins sont partis en fumée depuis hier après-midi à Bédénac. 2 foyers sont encore actifs. Et dans l'Indre, enfin, un brasier a ravagé la forêt de Lancôme. Le feu est fixé là aussi, mais il faudra encore plusieurs jours pour l'éteindre complètement.
Une précision de Laetitia Oveline. En tout, 87 départements sont concernés par des restrictions d'eau. C'est du jamais vu à cette période de l'année. Tous les détails et des cartes de France sur francebleu.fr. Les juges ont ordonné aujourd'hui un non-lieu pour Airbus et Air France. Dans l'enquête sur le crash Rio-Paris, survenu il y a 10 ans, 228 personnes étaient mortes. L'avocat des associations de familles de victimes va faire appel. Il dénonce une insulte à la mémoire des disparus. Le gouvernement reçoit syndicats et patrons depuis ce matin. Concertation sur les retraites. Elles vont durer 2 jours. Le but, en savoir plus sur les pistes de la réforme, cotisation plus longue ou âge pivot à 64 ans. Après Force ouvrière, c'est la CFTC qui est reçue en ce moment. Son président, Philippe Louis, nous détaille ses attentes.
Ce qu'on attend, c'est déjà qu'on nous détaille la méthode, le calendrier, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de controverses sur le calendrier, avant les élections municipales, après. Quelle concertation? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la négociation? Il y a certains points qui, pour nous semblent relever de la négociation. L'âge pivot, le montant des pensions, le montant des cotisations. Est-ce que le rapport de loi, on le garde tel qu'il a été présenté? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Donc il faut trouver quelque chose qui permette de ne pas faire de défavorisés.
Beaucoup de questions en suspens, on l'entend, et on en saura plus sur le calendrier de cette réforme des retraites dans le courant de la semaine prochaine.
Les cours criminels sont lancés aujourd'hui, Simon.
Ouais, premier procès pour tentative de viol aujourd'hui à Caen. En tout, 7 départements vont expérimenter ces nouveaux tribunaux. Vous pouvez retrouver ces départements sur francebleu.fr. Des instances sans jury populaire. Un choix contesté par certains magistrats qui craignent une gestion expéditive d'affaires parfois sensibles. Les dents en or ou les prothèses des défunts revendues une fortune. Les assurances obsèques qui arnaquent les souscripteurs. 60 millions de consommateurs dénoncent aujourd'hui le business de la mort. Les petits arrangements autour de l'héritage et de la succession. Gare à l'enfumage, prévient l'association.
Dernière nouvelle du Brexit.
Ouais, sacré feuilleton. Hein. Hier, le Premier ministre Boris Johnson a perdu une bataille. Sa majorité a accepté ce matin de ne pas bloquer le projet de nouveau report du Brexit. Mais pour qu'il y ait report, il faut une approbation unanime des 27 pays de l'Union européenne. Et on en est loin, Denis.
Et pendant ce temps, les Britanniques de France continuent de s'inquiéter, voire de paniquer pour certains. Nous accueillons dans un instant le vice-président de British in France qui représente les intérêts des expatriés britanniques en France.
Dorian regagne en force à l'approche de la Floride sur la côte est des États-Unis. L'ouragan a fait 20 morts et des dégâts énormes dans les Bahamas. Les vents enregistrés en ce moment frôlent les 200 km/h. Le coq Maurice va pouvoir refaire ses vocalises.
Ah,
tranquille, sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Décision de justice aujourd'hui du tribunal de Rochefort. Après quand même 2 ans de procédure, les plaignants agacés par le bruit doivent par ailleurs verser 1000 euros de dommages et intérêts à la propriétaire du coq, Corinne Fesseau. Très soulagée, on l'écoute.
Moi, je suis très contente. J'ai gagné un combat depuis très longtemps que j'attendais. Je ne l'ai pas mené toute seule, forcément. J'ai eu beaucoup de soutien. Mon association a toujours été présente à mes côtés. Je suis fière de mon association, fière de mon avocat, fière de mon maire, qui m'ont beaucoup soutenue. Moi, j'attendais pas plus parce que de toute façon, eux, ils m'ont mis en procès. Nous, on a fait un combat. Maintenant, c'est à eux de réfléchir et de dire, ils ont perdu, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils acceptent. Tout va redevenir comme avant. Voilà, tout le monde va reprendre sa place. Et Maurice, il va rechanter. Voilà.
Des propos recueillis par Marina Guibert pour France Bleu, La Rochelle. Et on pourra peut-être tous lâcher un petit cocorico avec Maurice cet après-midi en cas de victoire de l'équipe de France de basket.
Bien vu.
Au Mondial de Chine, ce serait leur troisième succès en trois matchs. Coup d'envoi dans une heure et demie contre la République dominicaine. Et tenez, Frédéric, Denis.
Oui.
Est-ce que vous connaissez le speed flying ?
Non, mais ça doit être dangereux. Ça.
Voilà, en gros, c'est comme du parapente, mais en beaucoup plus dangereux. Hein,
d'accord.
Pourquoi pas ? Et forcément, ça plaît à l'acteur Tom Cruise, connu pour son goût du risque. Il s'entraîne actuellement chez nous, en Haute-Savoie. Et pour voir ce que ça donne, on vous a laissé quelques vidéos sur FranceBleu.fr.
Génial, merci beaucoup.
N'est-ce pas,
Simon ? On vous dit à demain.
À demain.
Bonne journée, merci
bonne émission.
Beaucoup.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime Florent Pagny.
Si une chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire, peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix. Alors il faut chanter.
Si une chanson, Florent Pagny, un coup de cœur France Bleu.
Oh, je sens que c'est l'heure de la météo, Frédéric Le Tournier.
C'est cette petite musique donc, qui vous le rappelle.
C'est ça, oui.
Sur les Alpes, le ciel se charge de nuages de plus en plus menaçants et des averses orageuses éclatent cet après-midi. En fin de journée, elles s'étendront jusqu'au littoral. Les orages seront parfois forts en début de nuit vers la côte varoise, avec des précipitations intenses et un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Sur la Corse, des averses isolées feront place à des pluies orageuses marquées également. Sur le reste du pourtour méditerranéen, c'est du soleil. Et partout ailleurs, c'est plus variable avec de belles éclaircies et des passages nuageux. À Lille, il fait 18 cet après-midi, à Chalon Champagne 19, à Rennes 19 aussi, à La Rochelle et Lyon 21, à Biarritz 20 degrés au menu. Et le premier invité du Nord en France est le représentant des Britanniques en France, le vice-président du British Community Committee, à l'heure des inquiétudes grandissantes des expatriés en France.
Bonjour et bienvenue Christopher Chantret.
Bonjour.
Vous vivez comme nous, mais sans doute un peu plus que nous, les derniers soubresauts politiques du Royaume-Uni. On ne sait toujours pas ce qui va se passer et quand. Est-ce que vous observez des changements d'attitude de vos compatriotes comme des départs pour rentrer à la maison ?
Ben on est de plus en plus inquiets. Des départs, il y en a. Il y a des personnes... Bon, c'est pas quelque chose qui se décide au dernier moment. Hein. Les départs dont je suis au courant ont été décidés il y a quelques mois, mais la situation s'empire. Et quand on voit ce qui se passe à Londres cette semaine, c'est sans précédent, c'est incroyable et ça nous ne nous inspire que qu'une perte de confiance.
Si des Britanniques désirent rentrer, c'est parce qu'ils sont inquiets pour leur retraite ou leur couverture sociale. Ils ont peur de ne pas pouvoir faire face à l'avenir financièrement.
C'est les deux. Je dirais, c'est pas une majorité qui décide de partir, mais ceux qui partent ces départs sont motivés en partie par la baisse pour les retraités. Hein, c'est pas de la majorité. Hein, les retraités sont beaucoup moins nombreux que les ceux qui sont en âge de travailler, mais ils sont motivés par la baisse de la livre. Ils ont des pensions en livres sterling.
C'est ça,
et
ouais.
Bien entendu, il y a de moins en moins d'euros qui tombent sur le compte bancaire. Ils sont inquiets pour le maintien de la couverture sociale. Dans le cas d'un accord, là, c'était assuré, c'était OK. Mais on va certainement... Enfin, presque certainement vers une sortie sans accord. Donc, la couverture sociale, le paiement des prestations de santé par le Royaume-Uni, parce que c'est le pays compétent, hein, c'est là où ils ont versé leurs cotisations.
Ouais.
Est-ce que ça va être maintenu un an, deux ans? On ne sait pas. C'est très très pour quelqu'un qui a une condition médicale chronique, c'est impossible d'envisager un avenir sans couverture sociale.
C'est pas rassurant, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui.
Il y a également la revalorisation des pensions de retraite qui est automatique et qui est menacée.
Oui.
Le gouvernement britannique a annoncé que ça va durer 3 ans et pas au-delà.
La meilleure chose qui pourrait se passer au stade où nous en sommes, ce serait quoi? Des élections anticipées, on revote, un report de quelques mois du Brexit pour essayer d'arranger les choses?
La meilleure des choses, c'est la révocation de l'article, de la notification sous l'article 50. Ça serait la meilleure des choses. C'est le retour, c'est la seule chose qui peut provoquer un retour à la normale d'avant 2016.
Mais est-ce que les Britanniques seraient d'accord?
Alors, beaucoup de Britanniques ne seraient pas d'accord. On va sans doute vers des élections législatives, vers le 15 octobre peut-être, la date n'est pas sûre, ce n'est pas encore sûr, la semaine prochaine on en saura davantage, mais s'il y a des législatives et donc un nouveau Premier ministre peut-être vers le 16 octobre, si le Conseil européen ne vote pas à l'unanimité le report, enfin nouvelle extension, il y aurait pratiquement que ça à faire, alors c'est le chaos.
Vous pensez que c'est tellement fou, c'est tellement farfelu ce que nous vivons depuis quelques mois, depuis quelques années, qu'in fine, l'Angleterre, le Royaume-Uni, pourrait ne pas sortir de l'Union parce qu'il se passerait quelque chose d'extraordinaire?
La révocation entraînerait donc une non-sortie, mais ce serait un moment pour repenser l'ensemble de la chose. Oui. Et pour même les partisans de la sortie, là, tout le monde respire un peu, on repense ça, et on peut imaginer un nouveau référendum en 2020.
Merci d'avoir témoigné ce midi. Je rappelle que vous êtes le vice-président.
Vous êtes vice-président du British Community Committee. Est-ce que je le prononce bien?
Tout à fait bien, oui.
Ouais. Moi, j'ai dit plus rapidement British in France. C'est valable aussi, on est d'accord.
C'est valable aussi.
Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Je précise que vous représentez les expatriés britanniques en France.
Christopher Chantret.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Une heure en France. Denis Farrou. Frédéric Le Ternier.
Et on continue avec un très joli programme ce jeudi. Une heure en France se poursuit à Marseille pour une visite de la Cité Radieuse. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le projet de l'architecte Le Corbusier a pris forme. Décrié à l'époque, le bâtiment attire les touristes aujourd'hui.
Évidemment, l'idéal, ce serait que l'un de nous deux ait visité cette Cité Radieuse pour mieux cerner le sujet, mais...
C'est peut-être possible, hein. Effectivement, j'y suis allée cet été. Ensuite, nous allons rencontrer un photographe passionné d'araignées. Il sillonne la Haute-Loire. Il a déjà pris des clichés de centaines d'entre elles.
7 à 800 espèces sur les 1600 que l'on trouve sur le territoire. L'intitulé de ses conférences est très joli. Ces petites bêtes qui nous veulent du bien.
Et on termine avec un défi lancé par une spécialiste des arts de la table. Elle recherche un pâtissier capable de reproduire un gâteau de la Renaissance présent sur un tableau de l'époque. Apparemment, elle aurait trouvé celui qui est prêt à se lancer.
Et qui est sur place, à Saumur en Auxois, là où aura lieu l'expo à la fin de l'année avec le gâteau du 19e siècle.
Une heure en France, c'est maintenant. Ne bougez pas, installez-vous bien confortablement. Vous l'avez vu, on sillonne la France, toujours à l'affût, comme chaque jour, de vos initiatives, de vos innovations. Mais c'est aussi de la musique avec Rita Lee. Profitez-en bien et à tout de suite. Lanza Perfume, j'espère que je le dis bien. C'était Rita Lee sur France Bleu.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
13h18, nous sommes en 1952 à Marseille.
Partout, des immeubles surgissent et dominant la ville, le plus grand et le plus extraordinaire est la cité radieuse que le ministre de la Reconstruction a inaugurée cette semaine. Et c'est sur la terrasse que son créateur, l'architecte Le Corbusier, a reçu des mains de M. Claudius Petit la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. La cité radieuse est née.
C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le ministre de la Reconstruction a passé commande d'une unité d'habitation car un manque de logements se faisait sentir.
Et on fait la visite de ce bâtiment précurseur qui plaît de plus en plus. On fait la visite aujourd'hui avec celle qui est en charge des visites guidées. Bonjour Djamila Ouzébia.
Bonjour Frédéric.
Racontez-nous la cité radieuse, comme on vient de l'entendre dans le son. Hein, c'était un projet expérimental de l'architecte Le Corbusier. Une commande avait été passée ?
Effectivement, donc comme on l'a entendu, une commande a été passée par le ministre de la Reconstruction après-guerre pour reloger les sinistrés, notamment des quartiers du Vieux-Port qui avaient été fortement touchés par à la fois les bombardements des alliés et à la fois donc l'occupation. Mmh. Et donc il s'agit de reproposer donc des logements, et c'est à cette occasion que Le Corbusier est sollicité et qu'il peut proposer un projet qu'il a de longue date de ville à la verticale et d'habitat collectif totalement d'avant-garde.
Il était très connu à ce moment-là ? C'était un architecte très connu ?
Le Corbusier est un architecte connu qui travaille avec son cousin Pierre Jeanneret et qui, avec qui il a construit de nombreuses et luxueuses villas, les Maisons Blanches, la Villa Savoie-Poissy, hein, dans la banlieue parisienne, sont déjà des éléments de construction qui sont connus. Mm-hmm. Il n'a pas encore de grandes réalisations. Donc c'est vraiment l'occasion pour lui de se positionner en tant que très grand architecte.
Alors il faut expliquer un petit peu le principe de la cité radieuse, c'est une ville dans la ville, on peut vivre en autonomie quasiment.
Alors, l'idée pour Le Corbusier, c'est de proposer donc une ville à la verticale, hein, une cité jardin, qui propose à la fois donc des logements, hein, des appartements et des services et des équipements. Donc, on y trouve tout ensemble des logements pour les résidents et puis deux rues consacrées au commerce, des équipements de loisirs essentiellement sur le toit terrasse, avec également une école maternelle. Donc, un ensemble qui va permettre aux habitants d'avoir une vie radieuse, puisque c'est le nom du lieu, oui. La cité radieuse.
Et combien il y avait de logements prévus au moment de l'inauguration ?
Alors, il y a toujours eu 337 appartements. D'accord. Donc qui vont du studio de 16 mètres carrés, un peu moins de 16 mètres carrés, jusqu'à des appartements de 203 mètres carrés. Donc, un large choix de possibilités pouvant accueillir des familles jusqu'à 8 enfants.
Ouais, c'était très précurseur, en tout cas. On a regardé des vidéos avec Frédéric. Enfin, j'ai regardé des vidéos. Elle a visité directement cet été.
Ouais.
Avec notamment ces cuisines ouvertes sur le salon au début des années 50, des appartements traversants, c'était pas vraiment la mode de l'époque.
Pas du tout, hein. Et donc Le Corbusier a travaillé avec donc des collaborateurs très connus, hein, Charlotte Perriand, qui est architecte et designer, qui va participer largement à cette dimension créative, ainsi que Jean Prouvé. Et c'est ensemble avec Charlotte Perriand qu'ils vont concevoir à l'intérieur des appartements une cuisine qui constitue un peu le centre du foyer, puisque pour le Charlotte Perriand, la ménagère ne doit pas être reléguée à ses tâches, elle doit pouvoir communiquer avec sa famille et ses amis. Et donc dès les années 50, les Marseillais vont avoir la proposition d'une cuisine ouverte, donc qui est un peu plus connue sous le nom de cuisine à l'américaine, mais qui va permettre à la fois de s'organiser dans les tâches, hein, nombreuses que l'on effectue dans la cuisine, tout en ayant toujours une communication avec sa petite famille.
Djamila Ouzébia, est-ce qu'il a essuyé beaucoup de critiques au départ, Le Corbusier ?
Bien évidemment, hein, que on n'est jamais prophète en son pays, et que évidemment, au milieu du XXe siècle, ce projet d'avant-garde est considéré un peu comme fou. Hein. D'ailleurs, il y a eu pendant quelques années ce nom de la maison du Fada qu'on n'utilise plus trop, hein, mais qui donc a déchaîné un petit peu les fureurs. Pas pas simplement pour l'esprit, pour les duplex et l'ensemble, mais surtout parce qu'on a pour la première fois un bâtiment sur pilotis, hein, qui donc repose sur double rangée de pilotis et qui s'élève donc à la verticale avec des façades qui sont
colorées,
polychromes, hein, voilà, exactement, hein, qui proposent des couleurs rouge, jaune, verte. Donc Le Corbusier, c'est le maître, enfin c'est le créateur du brutalisme, hein, donc tout en béton, béton brut de décoffrage, donc les façades se présentent à nu, donc avec une lecture très très particulière, donc beaucoup d'éléments là qui font que Le Corbusier est un précurseur et qu'aujourd'hui, lorsqu'on visite l'unité d'habitation, on est face à quelque chose d'extrêmement moderne, hein, qui parle à tout le monde, puisque le concept que Le Corbusier a proposé et coule un petit peu de soi pour les demandes et les besoins des familles d'aujourd'hui.
Alors c'est vrai que ça continue de passionner les amateurs d'architecture moderne. Est-ce que les logements sont très demandés? Est-ce qu'il y a des longues listes d'attente pour habiter à la Cité Radieuse?
Parce qu'on y habite encore à la Cité Radieuse.
Bien sûr.
Ah, bien sûr, on y habite. Hein, les 337 appartements sont habités, hein, avec voilà, des familles diverses et variées, hein, puisque les propositions en matière donc de superficie, hein, que Le Corbusier a créé sont donc permettent une diversité dans les familles qui y habitent. Les logements sont tous occupés. Alors il paraîtrait, je n'ai jamais fait cette demande, que les listes seraient un petit peu longues. C'est surtout dû au fait que ben on s'y trouve bien quand on est dans la Cité Radieuse, donc voilà. Il y a effectivement un turnover qui est au niveau des familles, qui est un petit peu celui de tout immeuble, mais avec cette particularité que justement avec ce modernisme, les familles sont de plus en plus attirées. Donc j'ai mentionné le fait qu'il s'y trouve des commerces, mais surtout une école maternelle, et donc c'est très très agréable d'avoir ses enfants juste au-dessus et de ne prendre que l'ascenseur pour accompagner les enfants ou les récupérer.
Et si on ne peut pas
proposer, voilà.
si on ne peut pas loger dans la Cité Radieuse, sachez quand même qu'il y a un hôtel, il y a un restaurant et on peut visiter. On peut la visiter.
Ah mais bien sûr,
Radieuse.
Oui.
C'est assez
la
magique.
Visite de la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille. Quand je pense que vous n'avez rien découvert, vous saviez tout ça, Frédéric.
Mais oui, moi j'ai adoré. Il faut absolument aller voir.
J'en suis persuadée. Nous proposons des visites tous les jours, donc avec la possibilité donc d'un appartement classé, de l'appartement classé.
Très bien. Un petit peu sur le modèle d'Auguste Perret au Havre. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes.
Tout à fait. Voilà. Bien sûr, Le Corbusier était élève de Auguste Perret.
Donc tout est logique. Je n'ai pas dit une énormité.
Non, pas du tout.
Merci beaucoup, Djamila Ouzébia. C'était passionnant. Merci pour cette présentation.
Bonne fin de journée.
À bientôt. Au revoir. Ça vous a donné envie, j'espère, Denis, d'y aller.
Oui, vraiment. Parce que visiter, ça doit être encore mieux que la vidéo sur Internet.
Effectivement. En général, c'est ce qui se passe. Alors, on joue pour un support de téléphone France Bleu pour vous accompagner en voiture. C'est bien utile. On en a parlé avec notre invité. Si vous avez été bien à l'écoute, vous saurez sans doute la réponse. Dans quelle ville se trouve une autre réalisation du Corbusier qui s'appelle la Villa Savoie? Est-ce que c'est Grenoble ou est-ce que c'est Poissy? Grenoble ou Poissy, la Villa Savoie du Corbusier. Djamila Ouzébia, notre invité, nous l'a dit il y a quelques minutes. Vous nous appelez 0810 055 056 et puis vous restez avec nous, hein, vous restez bien avec nous. On va rencontrer un photographe passionné d'araignées. Moi, j'ai déjà peur. Et puis à 13h45, on s'intéresse à un défi lancé par une spécialiste des arts de la table.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeune et fou, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Ça fait longtemps que j'aimerais partir de ce petit village qui m'a vu grandir. Je connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient, à part mon pote Lucien. On se connaît depuis l'époque, puis le bac à sable, la morvonne et les billes cachées dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendus folles. Je compte même plus le temps passé en hors de colle. Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère. Je suis comme je suis, un petit schnappant qui aime bien avoir la tête en l'air. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout.
On a fait un groupe depuis 2-3 semaines avec les copains, on aimerait faire quelques scènes, mais bon pour l'instant y'a rien. On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent. Je veux connaître notre style, un mélange de pop, reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on n'est qu'une bande de potes. Et crois-moi, c'est sûr qu'on va marquer l'époque. Comprends que je ne veux pas rester planté là pour pousser, qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A, mais qui sait demain j'aurai peut-être un plan B. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le coup. Moi je veux juste partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Allez leur dire. Allez leur dire.
On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tord les bras, un point c'est tout.
On leur dira,
on leur dira. Le dernier titre de Sylvain Areg sur France Bleu, on aime beaucoup. Allez leur dire, pour accueillir Émilie. Bonjour Émilie, où êtes-vous?
Bonjour.
Où êtes-vous Émilie?
Je suis dans la Drôme, à côté de Haute-Rive, où il y a le palais des inspecteurs cheval.
Ah, on en a souvent parlé dans Une heure en France.
Un petit village à côté, donc.
D'accord. Eh ben tiens, on va faire un point météo. Quel temps fait-il?
Alors, il fait beau et il y a beaucoup de vent.
Bon, beau, chaud aussi ou un peu frais, là?
Non, un peu frais quand même.
Ça sent l'automne, ça y est, on y est pratiquement.
On est parfois en dessous des... Ouais, on est en dessous des températures de saison, normalement.
C'est vrai, un petit peu en dessous. Vous disiez quoi, Émilie, que ça sent l'automne?
C'est bizarre, parce que hier on se baignait, aujourd'hui,
ben
on ne
voilà.
sait pas.
Hein. Eh ben non, ça change un petit peu. Émilie, est-ce que vous connaissiez toutes ces réalisations de l'architecte Le Corbusier?
Non, pas du tout.
La Cité Radieuse, vous aviez jamais entendu parler?
J'en avais entendu parler, mais c'est tout. Après, pas plus.
Eh bien, écoutez, ça nous a permis de découvrir. Et dans quelle ville se trouve la Villa Savoie? C'est Grenoble ou Poissy?
Poissy.
Félicitations, on vous envoie le support de téléphone France Bleu. Émilie, c'est gagné, c'est pour vous.
Merci.
Bonne journée, grosse bise, restez bien à l'écoute. Merci
revoir,
d'avoir joué. À bientôt. Au revoir, Émilie.
Au revoir.
France Bleu. Le meilleur des hits en français dans le texte, France Bleu Blanc Hit.
Ce soir, à partir de 20h30, c'est France Bleu Blanc Hit. Une émission 100% chansons françaises avec vos artistes préférés. Et puis on va beaucoup jouer, s'amuser ensemble. On vous a mis de côté pas mal de cadeaux. Notez le rendez-vous, 20h30 sur France Bleu ce soir.
France Bleu Blanc Hit avec Romain Grimaldi sur France Bleu, 20h30, 22h.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu M, Boulevard des Airs et Vianney.
Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
Boulevard des Airs et Vianney, un coup de cœur France Bleu.
Ah, j'adore cette intro. Un slow. C'était bien quand on dansait des slows, ça fait longtemps. Hein.
Vous dansez, mademoiselle.
Ah oui, avec plaisir. Ten Sissi dans
une surprise partie.
Surprise partie, non, une boum
au
moins.
Le bal du village. Oh.
It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
Oh,
Général, ouais. On retournait voir le DJ en lui disant « Vous pouvez remettre un slow
?» Bah alors, c'est pas prévu pour tout de suite, mais des slows comme on n'en fait plus. Ten Sissi, c'était « I'm not in love ».
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Il faut qu'on vous raconte, quand on a découvert qu'un passionné et un photographe de la nature étaient en train de répertorier toutes les espèces d'araignées dans son département, nous nous sommes dit, ça vaut bien une invitation dans Une heure en France.
Et c'est ainsi que nous accueillons un habitant de Haute-Loire, de Blavozy, près du Puy-en-Velay.
On va peut-être regarder les araignées différemment après notre discussion. Bonjour Henri Malesson.
Bonjour.
Grâce à vous, on parle d'araignées depuis 3 jours avec Frédéric.
C'est vrai.
On a appris que quand on est en pleine nature, il y a de grandes chances qu'une araignée se trouve tout près de nous. Et en général, on ne la voit pas.
Ah, c'est tout à fait vrai. Quand on est en pleine nature, on est toujours à moins de 10 cm d'une araignée.
Ou ça fait près quand même.
Ça fait très près, oui. Mais la plupart d'entre elles sont minuscules. Donc les gens ne les voient pas.
Et est-ce qu'elle nous voit ?
Oh, oui, en principe, mais on est une masse tellement importante que elles savent pas ce que c'est. Pour elles, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est comme, elles nous voient. Elles voient de l'ombre surtout. Elles détectent les mouvements, la chaleur.
Henri Malesson, comment un jour on décide de photographier et de s'intéresser aux araignées ?
Ça c'est. Bon, je faisais de la botanique pendant des années, j'ai fait beaucoup de botanique, je continue d'ailleurs. Et un jour, j'ai vu les insectes sur les plantes, je me suis dit, c'est intéressant. Et puis, j'ai vu une superbe araignée, qui était une araignée crabe. Et je me suis dit, ça, c'est encore plus intéressant que les insectes. Et c'est parti à partir d'une araignée crabe. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de différences au niveau de la vie des araignées, d'un genre à l'autre, et de la vie de tous les jours de l'araignée et de la vie sexuelle des araignées. C'est très intéressant.
Ah bon?
Oui. Voilà. Vous voulez que je vous en dise plus là-dessus?
Bah oui. Qu'on attendait que ça.
La vie sexuelle des araignées, si vous avez une araignée mâle qui rencontre une femelle, déjà elle va faire souvent une espèce de danse nuptiale.
D'accord.
D'une parade nuptiale. Et en principe, il y a des araignées qui mangent leur partenaire, mais il y a des partenaires, le mâle va arriver avec un cadeau, un cocon, dans lequel il aura enroulé une mouche, et pendant que la femelle déroule le cocon et grignote la mouche, bien il aura fait ce qu'il avait à faire.
D'accord.
Et
détourne l'attention.
Il y a des mâles qui sont beaucoup plus malins, ils vont amener un cocon. La femelle, elle va dérouler le cocon, et une fois qu'il aura fini, elle finira juste de dérouler, et à l'intérieur, il n'y a rien.
Un malotruve, celui-ci.
C'est un leurre.
Il y a une autre espèce qui, elle va arriver, elle va faire sa danse nuptiale, elle va accrocher les pattes de la femelle avec sa soie autour de la plante. La femelle, elle est ligotée sur la plante, il va faire ce qu'il va faire, ce qu'il a à faire et il va se casser en tirant sur le fil pour la dénouer la fenêtre.
Là, on est dans la séance sadomaso.
Il y a des tas d'anecdotes comme ça. C'est la vie des araignées.
Alors, on va s'arrêter sur l'aspect sexuel. Et du coup, est-ce que les araignées piquent? Parce que ça, c'est une légende urbaine. Elles ne piquent pas, les araignées, en réalité.
Non, les araignées mordent déjà.
C'est ça.
Quand elles font quelque chose, elles ne piquent pas, c'est une morsure. Mais à Paris, entre autres, et dans le centre de la France, il n'y a aucune araignée qui soit capable de transpercer la peau humaine.
D'accord. Et est-ce que ce sont les...
Il y a deux ou trois espèces sur le pourtour méditerranéen et en Corse.
Mais oui, mais quand on a des petits boutons, alors...
Bah c'est les moustiques.
La France, ça n'existe pas. C'est une légende urbaine.
Mais quand on a des petits boutons, attendez, Henri Malesson, les petits boutons, on se dit, je me suis fait mordre par une araignée. Ce serait pas vrai, alors?
Bah, non, absolument pas.
D'accord. Je vous dis, c'est un moustique, c'est Frédéric.
Je vous dis, c'est pratiquement impossible qu'une araignée autochtone, je parle, l'individu qui va élever des migales qui viennent du Brésil, c'est sûr qu'elle va pouvoir le mordre. Mais les araignées françaises, européennes même, il n'y en a pas qui soient capables de transpercer la peau humaine.
Henri Malesson, on a lu l'intitulé de l'une de vos conférences, c'était au mois de juillet, qui s'appelle « Ces petites bêtes qui nous volent du bien ». C'est pour faire joli sur l'affiche ou c'est réel ?
C'est réel parce que une araignée va consommer beaucoup d'insectes. Et ce sont des tonnes d'insectes au niveau mondial que les araignées vont consommer. Dans une maison, une épère, elle va consommer par exemple 80 grammes de moustiques sur une année. Et il faut s'imaginer ce que ça fait 80 grammes de moustiques pour une seule araignée.
Oui, parce que c'est pas lourd un moustique.
Et oui. Donc c'est très utile. Il y a d'autres araignées qui vont manger les escargots dans les jardins. Pas des escargots de Bourgogne, mais les petits escargots qui viennent de naître. Elle va se débarrasser des limaces et des escargots. Toutes les araignées sont très utiles. C'est un prédateur important.
Et du coup, elles injectent une sorte de venin dans leur proie.
Oui.
C'est ça, comme ça qu'elles les neutralisent et puis après, elles les mangent ensuite.
Tout à fait, elles injectent un venin et un anesthésique. Et ce qui permet de paralyser l'insecte. Et une fois qu'il est paralysé, il est toujours vivant. Alors, il y a certaines espèces qui vont le garder en conserve dans un cocon pour plus tard.
Pour
le boulotter un peu plus tard. Et d'autres espèces vont le consommer tout de suite. Et en injectant cet anesthésiant, et elles injectent aussi un dissolvant qui va dissoudre tout l'intérieur de l'insecte. Et comme elles n'ont pas de dents, ni de mandibule, elles ont sucé l'intérieur.
Ouf, bon, bah écoutez, on va s'arrêter.
La vie est extraordinaire. Si on nous avait dit ce matin qu'on allait passer ce moment et se passionner pour la vie des araignées en Haute-Loire, celle que vous photographiez, Henri Malesson.
C'était vraiment passionnant et je rappelle que vous avez une conférence le 7 novembre prochain, si on veut en savoir plus.
Ce sera où la conférence ?
C'est à Langeac.
Très bien.
En Haute-Loire.
À la mairie de Langeac, en Haute-Loire.
Très bien.
Voilà.
Ben écoutez, on se renseignera plus avant, on peut nous appeler si on a besoin de renseignements. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, Henri Malesson, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée, bonne photographie.
Bonne journée et merci d'avoir donné la parole aux araignées.
Et oui, c'est pas si souvent, on est d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. On joue pour une montre France Bleu Sport. On a appris beaucoup de choses sur les araignées. D'habitude, moi, je ne veux pas en savoir autant sur la vie de ces petites bêtes.
L'histoire des fils et de la mouche pendant que l'araignée fait son affaire.
Ah, c'est incroyable. Dites-nous quel est le vrai nom de ce héros, Spider-Man. Dans la vraie vie, comment il s'appelle Spider-Man ? Est-ce que c'est Clark Kent ou Peter Parker ? C'est
facile. Ah, il a un nom dans la vraie vie.
Oui, c'est pas Spider-Man au bureau, ça fait moyen. 0810 055 056 avec la bonne réponse, hein, c'est mieux. Super duo qu'on retrouve maintenant, très très beau titre. Manhattan, Kaboul, Renaud et Axel Red dans Une Heure en France. Et ensuite, on vous parle d'un gâteau, un sacré défi, un gâteau à reproduire, un gâteau de la Renaissance.
Petit portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler.
inconnus, deux anonymes mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Par 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam de tyran.
Cela ont-ils jamais lu le Coran?
Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile?
Les dieux, les religions, les gardes civilisations,
les armes, les drapeaux, les patries, les nations
font toujours de nous de la chair.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Manhattan Kaboul, c'est le titre. Renaud et Axel Red qui ont prêté leur voix pour ce magnifique duo. On va accueillir Amal. Bonjour, bienvenue Amal.
Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Amal. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône?
Je suis dans les Bouches-du-Rhône. J'ai du soleil et un peu de vent, mais wow, il fait chaud.
Et vous êtes où dans les Bouches-du-Rhône?
Là, je travaille, j'habite la Destrousse.
Je ne connais pas, c'est près de...
C'est à côté d'Aubagne.
D'accord.
Voilà, à côté d'Aubagne.
Très bien, Amal. On
un
vous
petit
situe.
Village à côté de la Destrousse.
Amal, est-ce que vous n'avez pas encore la montre France Bleu Sport?
Non, je ne l'ai pas.
Ah bah alors, ça va s'arranger. Est-ce que vous connaissez bien Spider-Man?
Eh oui, je le connais bien. J'avais vu le premier même, quand il s'était fait piquer par l'araignée, et c'est comme ça qu'après avait le produit. Enfin, je me rappelle, c'était loin dans ma petite tête.
Alors, il s'était fait mordre par l'araignée, mordre, pas
oui,
piqué.
Mordre, voilà. Écoutez, oui, c'est vrai, mordre par l'araignée. Et c'est vrai, Denis, les araignées, elles sont indispensables parce que moi, j'en laisse chez moi pour les moustiques. Elles m'attrapent les moustiques.
On dit que des araignées dans une maison, c'est une maison en bonne santé.
C'est ça.
Mais il était passionnant, notre invité. J'ai appris plein de choses.
C'était super. De toute façon, vous êtes tout le temps avec des invités passionnants. Oh. Moi, je travaille chez les personnes, je vous promets. Et j'ai ma radio et j'apprends tous les jours de vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Oh, vous allez c'est gentil, Amal.
Vous allez voir dans un instant, un gâteau de la Renaissance, c'est super aussi.
vous disiez, Amal, vous travaillez chez des personnes, vous êtes aide à la personne, c'est ça?
C'est ça, je suis d'accord. Aide à la personne, oui.
Ok,
oui.
Et là, vous repartez travailler à 14h?
Mais non, j'y suis, là, tranquille, je suis toute seule, j'écoute ma radio. et je me trouve dans le Var, sur Saint-Zacharie, là.
Voilà. D'accord, Saint-Zacharie, on y était hier. Aussi.
Ben oui.
On en a parlé de Saint-Zacharie hier ou avant-hier, avec le coiffeur, exactement. Ouais. Amal, j'en viens à ma question. Donc, le vrai nom de Spider-Man, c'est quoi, Clark Kent ou Peter Parker?
Peter Parker.
Eh oui, bien sûr, c'est la bonne réponse. La montre France Bleu, on vous l'envoie et on vous l'envoie avec une tonne de bisous, Amal.
Moi aussi, et continuez, on vous le dit, mais c'est vrai, on apprend et c'est essentiel. Merci beaucoup.
Merci à vous, Amal, on est vraiment très touchés. Merci. Bonne journée, au revoir, Amal.
Au revoir.
Au revoir.
Ya ora na 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 na
Solana. C'est Ken Carter qui interprète cette chanson. Vous savez qu'il est tahitien et c'est très populaire à Tahiti.
Et c'est quoi le titre?
Non, mais vous êtes vraiment méchant. Tiens, donnez-le. comment
Yaorana.
Ah bah vous l'avez bien fait, très bien. Et donc c'était Ken Carter sur France Bleu. On l'a entendu tout l'été, ce chanteur tahitien. Et c'est vrai que ça donne envie de danser.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Une spécialiste des arts de la table qui prépare une exposition pour la fin de l'année à Semur en Auxois, chercher un artiste pâtissier capable de reproduire un gâteau de la Renaissance qui figure sur un tableau d'un peintre américain et qui s'appelle Gâteau de mariage.
Elle a trouvé à Semur même, entre Serres et Dijon, après avoir reçu des propositions du monde entier.
L'auteur de Comment recevoir à la française aux éditions de La Martinière, une habituée des plateaux de Stéphane Bern, est avec nous. Bonjour Jacqueline Queneau.
Bonjour.
Alors, on commence par le gâteau, gâteau du XVIIIe siècle. Vous nous le décrivez?
Alors, c'est un biscuit. A priori, d'après le tableau, on a l'impression qu'il y a des raisins secs à l'intérieur et des fruits secs. On n'en sait pas plus. Mais surtout, ce qui est très beau, c'est que le dessus est décoré de sucre blanc avec des grappes de fleurs et puis plein de petits détails, tout ça en sucre blanc.
Et pourquoi vous avez eu cette envie de relancer un tel défi? C'est des gâteaux qu'on ne trouve pas dans les pâtisseries aujourd'hui, même les plus recherchés?
Ah oui, non, ça se retrouve pas parce que ce sont c'est au minimum entre 4 et 5 heures de travail de préparation du décor. Donc ça ne peut être qu'une commande extraordinaire. Mais pour une exposition des arts de la table, je pensais qu'un des pâtissiers de la ville de Semur-en-Auxois pourrait relever ce défi et s'amuser à faire ce décor.
Eh bien, on va l'écouter, le pâtissier qui va relever le défi, Étienne Bourreau.
Ah,
oui, écoutez, il est plutôt confiant.
Je ne savais pas.
Il y a beaucoup de finesse au niveau du travail, ça c'est sûr, ça va prendre du temps. Mais après, au niveau reproduction, je suis pas inquiet. On a des matières comme la pâte à sucre. On a de la meringue bon, qui existe depuis des années. C'est un mélange de blanc d'œuf et de sucre. Et avec ceci, je pense qu'avec un peu d'imagination et de temps, on fait des choses qui peuvent être très simples.
C'est quand même rare, votre commande, Jacqueline Queneau. Vous commandez un gâteau qui doit résister 4 mois, le temps de l'expo?
Oui. Alors c'est pour ça que... Mais j'ai déjà fait... Hein. Pour des expositions, notamment à Suze-la-Rousse, au château de Grignan, on a des biscuits, parce qu'on parle plus de gâteaux vraiment, qui ont résisté 6 mois et résisté aux chaleurs de la Provence. Donc ça, c'est possible. Il faut simplement utiliser des biscuits qui n'ont pas d'autres matières que la farine, vous voyez.
Si on vous suit bien, il sera plus beau que bon, ce biscuit, alors.
Mais oui, je crois qu'on ne le mangera pas. Je ne sais pas, on verra. Mais peut-être que pour le vernissage, Étienne Bourreau nous en fera un vrai que l'on partagera. Ce n'est pas encore décidé, mais c'est un garçon très dynamique. Donc, je suis sûre qu'il est capable de nous faire une surprise aussi comme ça.
Ouais, et puis, il a 3 pâtissiers qui travaillent avec lui. Donc, il dit qu'avec 4 cerveaux, ils vont arriver à faire quelque chose
le gâteau
de bien. C'est une bonne idée, en tout cas, que la reproduction de ce gâteau, en réalité, on faisait des gâteaux compliqués au XVIIIe siècle. On ne voit pas ça dans les pâtisseries d'aujourd'hui, c'est clair.
Oui, parce que de toute façon, ce sont des gâteaux qui sont réalisés dans des familles aristocratiques où on a un pâtissier qui va mettre tout son cœur pour faire un gâteau aussi extraordinaire que ça. Mais ça n'est pas pour le tout venant, hein, malheureusement.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la pâtisserie retrouve ses lettres de noblesse? On sent que les gens ont de plus en plus envie d'avoir des gâteaux élaborés, que ce soit des petites œuvres d'art.
Oui, tout à fait. Moi, je suis fille de boulanger, donc j'ai vécu...
Ceci explique cela.
On avait aussi un rayon de pâtisserie et j'ai toujours vu les gâteaux sortir du laboratoire avec un souci de perfection. Et ça continue. Regardez, les bons pâtissiers ont des gâteaux très élaborés et toujours avec des décors très fins. C'est ça leur marque.
On vous souhaite une bonne exposition sur les arts de la table à la fin de l'année avec le gâteau de mariage.
Et bravo pour ce défi. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Jacqueline Queneau.
Au revoir Jacqueline Queneau. Ça donne envie de le voir. On va essayer de le mettre sur francebleu.fr, ce gâteau de la Renaissance qui est extrait d'une peinture.
Avec les petites feuilles ciselées sur le dessus du biscuit qui renferme des raisins secs.
Oui, mais il sera pas bon le biscuit. Hein. Ça sert à rien d'avoir l'eau à la bouche. Il sera plus beau que bon, on l'a vu. Une heure en France, ça continue en musique. Avec visage. Les débuts de l'électro, on peut le dire. Hein. Fade to Grey, c'était Visage sur France Bleu. On referme une heure en France aujourd'hui, Denis. Il s'est passé plein de choses. On a commencé à Marseille en visitant la Cité Radieuse.
Quelle visite radieuse de la Cité Verticale, la Cité Radieuse avec ses apparts, son école et son hôtel.
Et réalisée par Le Corbusier. Ensuite, on a appris beaucoup de choses, faut bien le reconnaître, sur les araignées.
On leur a donné la parole carrément. Si vous n'avez pas entendu la vie sexuelle des araignées, écoutez le podcast, c'est très intéressant.
Et puis on a fini avec un sacré défi qu'a lancé une spécialiste des arts de la table à des pâtissiers, reproduire un gâteau, mais pas n'importe comment.
Le gâteau de la Renaissance vu sur le tableau d'un peintre américain qui va être recréé à Semur en Auxois.
En
Auxois. Oui, Auxois. Voilà. Voilà. Pour l'expo sur les arts de la table présentée par Jacqueline Queneau à la fin de l'année.
On revient demain, Denis, si tout va bien.
Demain, relax.
Relax.
On fait du yoga au sommet du Puy-de-Dôme.
Alors, on fait du yoga sur le volcan, mais on regarde aussi les volcans en face.
On va prendre l'énergie du volcan en faisant du yoga au sommet.
Super, j'ai hâte. À demain.